Protesta, Radio Air Libre 87.7. Ah, mais non, c'est même plus Radio Air Libre, c'est Radio Protesta. Plus sur les ondes pour cette émission-ci, puisque Radio Air Libre nous a lâchés. Ça fait 3 semaines qu'il y a à chaque fois des problèmes techniques et tout, alors on a décidé de le faire quand même avec les moyens du bord, puisque cette émission-ci est entièrement réalisée sur ordinateur et sans aucune dépense financière, on peut le dire. En tout cas pour cette fois-ci, la prochaine essaiera quand même d'avoir des câbles qui nous permettront de faciliter un peu le travail. Ce sera aussi une émission entièrement consacrée à Prague et aux actions qui s'y déroulent pour le moment contre le sommet du FMI et de la Banque mondiale. Alors au programme, il y aura un interview par exemple du vice-président d'une des agences de la Banque mondiale, Luis Dodero.
Un reportage d'Alternative Libertaire.
Un interview de quelqu'un d'Alternative Libertaire.
Peut-être
une manif de samedi.
Une fanfare aussi française qui s'appelle FMI. C'est rigolo.
Il y aura aussi un reportage en direct, mais qui maintenant est en différé puisqu'il a été réalisé hier après-midi par téléphone avec quelqu'un qui était à Prague. Des informations un peu plus poussées sur le problème de l'annulation de la dette. Sur les actions sur Internet qui ont été faites pour essayer de bloquer les serveurs du FMI et de la Banque mondiale.
Les histoires jour par jour et presque heure par heure de tout ce qui s'est passé à Prague.
Voilà, le problème des trains d'Italiens qui est arrivé finalement. La vie culturelle à Prague, une déclaration de notre cher ministre des Finances belge à propos de la Banque mondiale. Et encore plein d'autres choses qui arriveront, et puis de la musique aussi comme d'habitude. On va d'ailleurs commencer tout de suite avec les Tux et Your Kind of Freedom. Alors il y aura toujours un tout petit blanc avant les morceaux parce qu'on n'a pas réussi à régler ça. Merci Windows 2000, non c'est 98, mais qui fait chier. Bon, les Tux donc, Your Kind of Freedom.
We'll be right back.
Les Feux Thugs, c'était donc Your Kind of Freedom, extrait de l'album Still Hungry. Alors, on retourne à Prague, enfin, en tout cas ce qui est en train de s'y passer, avec, on va essayer d'un peu expliquer ce que c'est la Banque mondiale et le FMI. Donc, en gros, c'est les grosses organisations financières mondiales qui décident, qui prêtent en fait aux pays, surtout les pays du Sud, mais aussi un peu partout, les États-Unis est le pays le plus endetté au monde, donc qui prêtent de l'argent à ces pays et qui donc permettent grâce à ça de faire pression sur ces pays pour l'expression, merci, j'ai oublié maintenant, c'est malin, pour faire des ajustements structurels. Donc ils disent, voilà, vous nous devez beaucoup d'argent. Donc on veut bien vous diminuer un petit peu la quantité que vous nous devez sur les intérêts, des intérêts de ce que vous nous devez. Donc on va diminuer ça un petit peu, mais en échange, vous devez faire ce que nous on vous dit, c'est-à-dire faire des ajustements structurels. Donc par exemple, privatiser des entreprises publiques, limiter les dépenses dans les services publics comme la santé, l'éducation, etc. Permettre des investissements illimités par les entreprises des pays occidentaux, donc principalement les États-Unis, mais aussi l'Europe et le Japon, mais c'est quand même surtout les États-Unis. Donc voilà, le FMI, la Banque mondiale, servent à ça, ils se réunissent régulièrement. Cette fois-ci, ils se réunissent à Prague du 26 au 28 septembre. Et donc, il y a plein de manifestations qui se déroulent, bien sûr, principalement à Prague, mais aussi un peu partout dans le monde, des manifestations de soutien, comme il y en a eu à Bruxelles hier et encore à d'autres endroits.
Même sur Internet.
Et même sur Internet, on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, maintenant que vous savez ce que c'est la Banque mondiale et le FMI, on va écouter un peu de musique. On va écouter Blaze avec My Beat.
As we dance to a beat that seems out of time, to the one you feel in the metronome of your mind. Does it offend you that our rhythm looks strange, or causes your thinking to be rearranged? Could it be that you would understand this beat to which we dance more clearly had you been given a chance? So as you struggle to find the feel with your feet, ask yourself, can you dance to my beat? While we get high to a rhythm with spiritual appeal, expressions of freedom from the descendants of slaves, God gives us the strength for new horizons we must break. First bondage, then mental, now financially oppressed. With this beat we dance, we know we pass the test. So as you struggle to catch the rhythm with your feet, ask yourself, can you dance to my beat? of your mind? Does it offend you that our rhythm looks strange? Or causes your thinking to be rearranged? Could it be that you would understand the beat to which we dance more clearly had you been given a chance? So as you struggle to find the feel with your feet, ask yourself, can you really, really dance to my beat?
Voilà, à l'instant c'était Blaze avec My Beat dans la version originale qui est quand même vachement mieux que toutes les autres qu'on peut trouver un peu partout. Par contre la version originale est quand même un peu difficile à trouver.
On va écouter autre chose maintenant, même tout à fait autre chose. C'est une interview de Luis Dodero qui est vice-président d'une des agences de la Banque mondiale. Pour l'histoire, en fait, il était coincé dans sa voiture par une manifestation d'Espagnols devant l'ambassade d'Espagne.
À Prague.
Et il nous donne son point de vue sur le contre-sommet, plein de contradictions et méchamment déconnecté des réalités.
On voulait savoir ce qui se passait en face de
l'ambassade. Je ne sais pas, parce que nous avons une réception pour la Banque mondiale.
Ouais.
Les Espagnols qui travaillent à la Banque mondiale.
Ouais.
Et les autres Espagnols, il y a les ministres, de l'économie de l'Espagne.
Ouais.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe là.
Et à votre avis, vous n'avez pas une petite idée comme ça? Vous êtes au courant qu'il y a un contre-sommet, beaucoup de manifestations?
Oui, il y a beaucoup de manifestations contre la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Mais...
Vous pensez que c'est contre la Banque mondiale et le Fonds monétaire ou contre les politiques qu'ils mènent?
Je ne crois pas que c'est contre l'Espagne.
Non, certainement pas. Mais donc c'est une délégation de manifestation espagnole qui manifeste chez eux, disons.
Je ne crois pas. Non.
Si, ce sont des Espagnols.
Ce sont des Espagnols?
Ce sont tous des Espagnols.
Oh, moi. Tous des Espagnols? Il y a beaucoup aussi.
Oui, il y a beaucoup. Ils ont fait le voyage.
je dois aller, je crois.
Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils manifestent? Qu'est-ce qu'ils demandent? C'est juste pour crier ou bien ils ont des raisons?
Non, je crois qu'ils demandent. Ils se manifestent contre la dette. Contre la dette et contre le fonds monétaire.
Et pour quelles raisons?
Je ne sais pas, mais je ne suis pas d'accord, naturellement, parce que je travaille à la Banque mondiale.
Oui, bien entendu.
D'accord. Oui, je ne suis pas d'accord.
Mais est-ce que vous avez pris la peine d'écouter ce qu'ils avaient à dire et de...
Oui. Oh oui, naturellement. Oui, à Washington. J'écoute tous les jours qu'est-ce qu'ils disent. Mais c'est le problème, c'est pas vrai. Il dit que nous ne luttons pas contre la pauvreté,
oui.
Dans le monde et tout ça. Nous faisons beaucoup pour la pauvreté. On peut faire plus, naturellement.
Et pourquoi on ne fait pas plus si on peut le faire?
Parce que les pays riches ne donnent pas d'argent.
Ah,
beaucoup de limitations à la banque. Beaucoup de limitations.
Quelles sont ces limitations?
D'argent. Nous n'avons pas d'argent.
Et le monde
riche, par exemple, les États-Unis ne veut pas donner plus d'argent pour la fenêtre, on dit la guillette, la fenêtre qui donne des prêts souffle, des prêts Dans la banque, nous avons une organisation qui donne des préstamos blandos, soft loans, des prêts avec des intérêts très bas ou sans intérêt. Nous donnons cet argent, mais nous avons besoin de l'argent pour donner ces prêts. Et les États-Unis ne donnent pas l'argent, et il y a beaucoup de pays riches, les G7, qui ne donnent pas d'argent.
Au lieu de prêter de l'argent, il faudrait peut-être pas commencer à pomper de l'argent sans attendre de contrepartie d'une part d'argent et d'autre part laisser un peu les politiques sur place se développer selon les spécificités locales plutôt que d'imposer une recette globalisée qui est censée faire avancer les pays du monde entier mais sans faire attention aux spécificités de chaque pays.
Oui, non. Un autre problème, c'est que le gouvernement des pays en développement se sent corrupt. Ils sont corrompus, il y a beaucoup de corruption.
D'où vient cette corruption, à votre avis?
De pays riches, de pays pauvres. Au pays pauvre, parce qu'ils ils mettent l'argent au pays riche.
Vous faites de très beaux lapsus.
Oui, je connais beaucoup de pays très corrupts.
Est-ce que vous pensez vraiment que, notamment le FMI et la Banque mondiale, mais les pays occidentaux en général, font tout pour lutter contre cette corruption,
il ne fait rien. Mais la Banque mondiale, nous avons un programme très fort contre la corruption. Nous ne donnons pas de prêts si nous voyons que le pays est corrupt. Pas de prêts.
Il y a pourtant des pays pas tout à fait nets qui obtiennent des prêts, non?
Naturellement, parce que nous ne sommes pas parfaits. Il y a toujours des erreurs. Mais nous avons un programme très, très strict. De ne donner pas d'argent aux pays corrupts.
Une organisation aussi énorme et aussi bien financée, bien conseillée, etc., que la Banque mondiale, fait donc des erreurs à un niveau d'État à État, c'est-à-dire donne des prêts, parfois des très grands prêts, à des États qui finalement sont assez corrompus et qui sont gérés par des dictateurs, à condition que le dictateur soit plus ou moins favorable à l'Occident, ou
non,
j'invente?
Non, pas de ça. Non, nous donnons des prêts pour des programmes spécifiques. Et nous avons des contrôles et des inspections parce que cet argent ne va pas à la Suisse.
Un exemple, est-ce que le tout premier prêt de la Banque mondiale à l'Indonésie date d'après Suharto ou bien d'avant?
Non, je comprends pas encore.
Le premier prêt que la Banque mondiale a accordé, par exemple, c'est un exemple, à l'Indonésie.
C'est à l'Allemagne. Le premier prêt.
Non. Le premier prêt accordé à l'Indonésie. Est-ce qu'il date de avant Suharto, enfin pendant Suharto ou après Suharto?
Pendant Suharto.
Et là, il y avait ni corruption ni dictature.
Beaucoup de corruption et nous l'avons constaté maintenant.
Et vous avez mis depuis 65 à le constater, depuis 1965?
Il y a.
Ça fait beaucoup de temps pour constater une chose très évidente.
Oui, naturellement. Bon, très évident, n'était pas très évident, mais naturellement.
À son arrivée au pouvoir, Suharto a fait liquider environ entre 500 000 et 750 000 personnes considérées comme communistes.
Mais la population de l'Indonésie avait besoin des écoles.
Oui, mais vous m'avez dit il y a 5 minutes qu'on n'accordait pas de prêts aux pays corrompus.
Maintenant, pas au gouvernement. Mais par exemple, si un gouvernement ou un pays où le gouvernement est corrompu a besoin des écoles, a besoin la population doit manger, on étudie ça, naturellement. Mais l'argent ne veut pas au gouvernement. C'est très important.
Donc vous faites des prêts directs à la population?
Non, nous travaillons ensemble avec les organisations non gouvernementales.
Alors pourquoi ces organisations non gouvernementales viennent massivement manifester au sommet?
Ils ne sont pas ici, ils ne sont tous ici.
Pour moi, une grande organisation mondiale qui lutte contre la pauvreté, c'est Oxfam par exemple. Oxfam est aux premières loges de la protestation.
Oxfam est aussi à Washington et nous avons des discussions avec Oxfam à Washington. Et il dit que nous faisons beaucoup, mais il veut que la banque ne fasse plus. Et naturellement, il y a des différences, Mais oui, c'est normal. Je suis d'accord avec beaucoup de ces gens.
Mais si Oxfam, par exemple, pour prendre un exemple, était satisfait du niveau de discussion mené avec...
Ils ne sont pas satisfaits.
Ah, je suis venu avec une délégation d'Oxfam Belgique.
Oui, Oui, naturellement, je suis d'accord avec Oxfam. Je donne d'argent à Greenpeace. Je suis d'accord avec beaucoup de cette organisation. Je crois que cette organisation est nécessaire. Parce que sans cette organisation, les banques ne seront pas contrôlées. Et naturellement, il y a beaucoup d'intérêts qui ne sont pas corrects. Mais je crois que, naturellement, qu'il y a des différences. Et je suis d'accord avec les démonstrations, les manifestations.
Eh ben, venez manifester avec nous.
Je peux pas.
Qui vous en empêche?
J'ai fait beaucoup, je crois. J'ai fait beaucoup. J'ai créé beaucoup de postes de travail pour beaucoup de gens aux pays pauvres. Je les ai vus. J'ai lutté pour augmenter le niveau de vie de beaucoup de gens en Afrique. Et je suis très heureux que je fais ça. Et très orgueilleux. Naturellement, on peut faire plus, mais je suis très content que j'ai contribué à la lutte contre la pauvreté. Il y avait des mines à l'Afrique. Et je vis de gens qui ont des travail grâce à la Banque mondiale. Je suis très heureux.
Ça va, ben, nous aussi, merci.
Pabie ni pabie ni sun pabie. Hey, pabie ni pabie ni sun pabie. Ni pabie ni pabie ni sun pabie. Ni kade aur tera bada ni pyara ni saag tu kara de pabie. Pabie ni pabie ni sun pabie. Ni pabie ni pabie ni sun pabie. Ni kade aur tera bada ni pyara ni saag tu kara de pabie. गोरा रंग ओदा मुखड़ा नी चन होवे होवे आखे ओदी मस्तानी नी वेख वेख जीनू नी पतंगे हाय गाश खान लोड़े ओदी मार दी जवानी नी होन नैन नी नशीले जेड़े गबरू निकले होन नैन नी नशीले जेड़े गबरू निकले कोई एहो जेही सोनी मुटियार दा तू साग नी ले आ दे पाबीए पाबीए नी पाबीए नी सुन पाबीए पाबीए नी सुन पाबीए
ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਰਲੇ ਮੈਂ ਪਾਵਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਨੀ ਤੇਰਾ ਅੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੋੜਦਾ ਰਹੀਏ ਬਣ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀਏ ਨੀ ਨਾਮ ਰਹੀਏ ਬਣ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀਏ ਨੀ ਨਾਮ
Voilà, c'était c'était quoi? C'était Alap avec Babillé ni Babillé, extrait de la compilation Bangra One Way Ticket to British Asia. Bon. Alors, explication de ce qui s'est passé le 23 septembre, donc à Prague, les manifestations qui ont commencé donc le 23. Un millier d'opposants à la mondialisation ont protesté contre les réunions du FMI et de la Banque mondiale. Et ils bloquent depuis 15 heures le trafic au centre de Prague. Les protestataires, parmi lesquels des anarchistes brandissant des drapeaux noirs, se sont formés en cortège à l'issue d'un rassemblement convoqué par plusieurs mouvements à orientation anarchiste et communiste sur la place de la Paix. Parmi les établissements bloqués par les protestataires lors de leur marche, figuraient deux des principaux hôtels Marriott et Renaissance, où sont logés certains des quelques 18 000 délégués des deux institutions financières. À 16 heures locales, le cortège, sous une forte surveillance policière, a envahi la place Venceslas, au cœur de la capitale tchèque, aux nombreux commerces de luxe et restaurants de chaînes internationales. Certains de ces établissements ont protégé leurs vitrines avec des panneaux de bois.
Venus pour un débat apaisé sur les enjeux du monde contemporain, 300 représentants de la société civile et des institutions internationales, invités par le président tchèque Václav Havel, se sont livrés samedi au château de Prague à un dialogue de sourds, ponctué de quelques vives interventions. Au château de Prague, des membres de plusieurs ONG en attente de concret n'ont pas ménagé le directeur du FMI, Horst Köhler, et le président de la Banque mondiale, James Wolfensohn, en veine de généralité. Le dialogue a juste commencé, avait relevé M. Havel, en ouvrant la rencontre, se disant peu certain que nous puissions résoudre tous les problèmes du monde au cours de cette réunion. La lutte contre la pauvreté est le principal défi de notre temps, a souligné le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Mary Robinson, devant un parterre d'invités triés sur le volet et venus des quatre coins du monde. Elle a relevé l'importance des enjeux, nous concernant tous, et le rôle d'une société civile qui nous a appelés à nous réveiller.
Première des 8 personnalités conviées à s'exprimer, Katerina Liskova, jeune militante tchèque des droits de l'homme, a estimé dans une intervention très dure que la pauvreté dans le monde n'existait pas malgré le travail de ses agences, mais à cause d'elle. C'est justement la Banque mondiale et le FMI qui, à travers leurs projets de développement, ont détruit l'environnement, limité les droits de l'homme et étendu la pauvreté. Face à Katerina Liskova, estimant que ces élites décidaient de notre sort sans nous, au sociologue philippin Walden Bello, les accusant de soutenir des dictateurs, à Anne Petitfort, cofondatrice de la coalition Jubilé 2000, demandant l'annulation de la dette des pays les plus pauvres, M. Wolfensohn a choisi de défendre son honneur et celui de ses collègues. Notre sentiment est que nous agissons au mieux, que nous combattons la pauvreté avec passion. M. Köhler a quant à lui souligné avoir beaucoup voyagé et écouté. J'ai un cœur, mais nous devons utiliser les potentiels de la globalisation et essayer de contenir les problèmes, a-t-il estimé. Des propos qui ont provoqué la colère de M. Bello, nous sommes venus pour une discussion concrète avec des faits, et nous avons eu M. Wolfensohn qui nous dit qu'il aime travailler pour la Banque mondiale, et M. Köhler qui nous dit qu'il a un cœur.
Au moins, c'est la première fois que toutes les parties s'assoient côte à côte, au même niveau, dans un cadre neutre, relevait cependant à l'issue de la réunion Manuel Fernandez de Villages, l'ONG mexicaine Transparencia. Il faut qu'il y ait une suite. La banque et le fonds sont obligés de prendre en compte le mécontentement des gens, c'est un pas, renchérit le salvadorien Ricardo Navarro, des Amis de la Terre. La branche tchèque de ces Bankwatch Network se réjouissait quant à elle des effets d'un débat aussi médiatique sur l'opinion nationale, encore peu sensibilisée à ces questions, selon Pavel Pribil, coordinateur.
Voilà, on va écouter 16 Horsepower avec Shame Down, avec toujours un petit plan comme d'habitude. Hop. Voilà, à l'instant, c'était 16 Horsepower avec Shame Town, extrait de leur single qui s'appelle 16 Horsepower et qui contient 6 morceaux. Donc c'est le premier truc qu'ils ont sorti, je pense.
Et pour annoncer la journée du 24, qui est assez chargée, qui est plus spécialement consacrée à la suppression de la dette dans les pays plus pauvres, il y a une petite interview de Marc, qui fait partie d'Alternative Libertaire.
France.
Oui, où il explique ce qu'il fait à Prague, au milieu d'une manif de soutien aux Italiens bloqués à la frontière.
Donc c'est Laurent d'Alternative Libertaire en France. Là, on est dans une manifestation, on est samedi 24, donc 2 jours avant la grande manifestation de mardi, la journée globale d'action. Pourquoi cette petite marche aujourd'hui là ?
Bah déjà, il s'agit de se mettre en jambe justement pendant 2 jours. Pour nous, il s'agit de montrer notre solidarité avec nos camarades tchèques de Solidarita, donc de manifester avec eux aujourd'hui. Là, on proteste plus particulièrement contre la fermeture, enfin les rétentions aux frontières de la part de la police tchèque, qui ont empêché un certain nombre de manifestants italiens, suédois, etc., d'entrer et qui continuent à en bloquer certains. Et donc, on manifeste pour exiger l'ouverture des frontières pour que tous les manifestants puissent venir dire ce qu'on pense de la politique du FMI et de la Banque mondiale, qui sont deux organismes mafieux qu'il faut supprimer au plus vite.
Et vis-à-vis de l'INPEC, vous êtes d'accord avec les mots d'ordre pour mardi, etc., l'appel à la manifestation ?
Grosso modo, dans l'ensemble, on est d'accord. Évidemment, c'est pas exactement les mots d'ordre que nous, on aurait développé en tant qu'alternative libertaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement large, global, qui englobe des gens très différents, Et c'est cette unité d'action qui est intéressante, même si les mots d'ordre vont peut-être pas suffisamment loin, ils sont quand même nettement suffisants pour faire avancer les choses concrètement.
Des projets pour mardi ?
Oui, des projets, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait définitif.
Ce sera un groupe avec qui ?
Avec nos camarades tchèques de Solidarita, ça c'est sûr. Et en fait, ça dépendra aussi d'eux. Là, on est en train de voir avec eux justement ce qu'on va faire pour mardi.
A priori, une action directe.
Voilà, exactement.
Okay. Ce serait possible en France, un mouvement comme ça, aussi solidaire, ou ce serait cassé par les querelles de chapelle ?
On espère bien que ça va être possible dès décembre prochain à Nice, puisqu'il y a le sommet de l'Union européenne pour la fin de la présidence française, que le réseau européen des marches européennes contre le chômage et la précarité appelle à manifester ce jour-là à Nice. Et on espère bien que cette manifestation aura lieu, qu'elle sera la plus unitaire possible, la plus large possible, et que il y aura à nouveau un bloc rouge et noir, un bloc des communistes libertaires et des anarchistes révolutionnaires qui sera aussi intéressant que celui qu'on trouve aujourd'hui à Prague.
Merci.
Voilà, c'était une interview d'un membre d'Alternative Libertaire France qui était à Prague ce week-end et qui expliquait son point de vue sur la Banque mondiale, le FMI et d'autres problèmes du même ordre.
En fait, plusieurs centaines de personnes participaient à une marche funèbre portant le deuil des 7 millions d'enfants qui meurent chaque année à cause de la crise de la dette. Jubilé 2000, qui est une coalition coordinatrice des campagnes actives dans 65 pays, veut profiter de la réunion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale dans la capitale tchèque pour réclamer l'annulation à 100% de la dette des pays pauvres après l'échec sur ce dossier au G7 d'Okinawa. La dette, c'est pour les pays en voie de développement, une chaîne comparable à l'esclavage il y a 100 ans, commentait un des porteurs de croix, le Britannique Derek Prentice, 54 ans, venu à Prague pour le week-end et qui avait déjà fait les voyages de Cologne ou de Birmingham pour le jubilé.
Durant ces 9 jours de session FMI Banque mondiale, du 19 au 28 septembre, 170 000 enfants mourront en Afrique à cause de la crise de la dette, estime la coalition. D'après des chiffres de l'ONU, les pays les plus pauvres doivent un total de 376 milliards de dollars et consacrent chaque jour 60 milliards de dollars à son remboursement aux Occidentaux, au détriment d'investissements en matière de santé. Les remboursements et les programmes d'ajustement structurel conduisant à la privatisation de secteurs entiers et la réduction de budgets sociaux sont depuis 20 ans une source majeure d'appauvrissement des pays du Sud, estimaient les manifestants. Un extrait du nouvel album de Radiohead qui n'est pas encore sorti.
C'est l'inédit, ou presque.
C'est l'inédit de la semaine, on peut dire, oui. C'est National Anthem, si ça marche. Oui, ça va. Voilà, on vous l'a laissé jusqu'à la dernière seconde pour que vous puissiez en faire ce que vous voulez, le copier, le graver, le mettre sur internet, l'écouter, le passer, tout ce que vous voulez. C'était donc Radiohead avec un extrait du nouvel album de National Anthem, vachement plus expérimental, on va dire, et pour lequel il n'y aura quasi aucune promotion, pas de single en tout cas, très peu de promotion presse. Je pense qu'ils vont, ils sont où ils vont passer à nulle part ailleurs, mais à part ça, c'est tout. Notons que Radiohead a soutenu le projet de Jubilé 2000, que je pense, mais je suis pas sûr qu'ils ont joué à Prague. Je sais plus trop. Enfin,
je suis pas sûr du tout.
En tout cas, ils soutenaient le projet puisque sur leur site, vous pouviez trouver un appel aux manifestations à Prague.
Pour continuer avec la journée du 24 septembre, un train spécial transportant plus d'un demi-millier d'opposants italiens à la mondialisation était immobilisé depuis dimanche matin à la frontière austro-tchèque après le refus des policiers tchèques d'autoriser l'entrée dans le pays à plusieurs de ses passagers, avait annoncé la radio tchèque CR1.
Les autres occupants du train, quelques 520 membres de l'organisation Yabasta, originaires notamment de Rome et de Milan, refusèrent de continuer leur voyage sans leurs collègues.
Un peu avant 4 heures ce matin-là...
Non, mardi matin.
Pardon ?
Mardi matin.
Un peu avant 4 heures, mardi matin. Après environ 17 heures passées à la frontière entre l'Autriche et la République tchèque, le Global Action Express, avec un millier d'Italiens à son bord, est arrivé à Prague.
À la gare, il était attendu par des centaines de policiers en tenue anti-émeute. Les voyageurs globaux se sont dirigés vers le stade de la ville où ont été organisées des possibilités d'hébergement pour les milliers de personnes qui arrivent à Prague pour la manifestation contre le FMI et la Banque mondiale.
Les 4 militants déclarés indésirables par l'État tchèque sont malheureusement restés à la frontière. La décision a été prise après discussion en Assemblée générale des voyageurs du train des droits. Ils sont sous la responsabilité des diplomates de l'ambassade d'Italie et accompagnés de deux représentants des centres sociaux du Nord-Est et d'un député communiste italien.
On va écouter maintenant Tipsy avec El Bombo Atomico.
Thank you.
Tipsy, c'était El Bombo Atomico, extrait de l'album Striptease de Seductive Sound of Tipsy. Alors, à Prague, les prestigieux théâtres et musées de Prague, ville devenue pour quelques jours centre de réunion de la haute finance internationale, subissent le contre-coup des mesures sécuritaires et ont largement réduit leurs activités. Une grande partie des théâtres et galeries de Prague ont fermé prudemment leurs portes par crainte de violence éventuelle lors des manifestations des militants anti-mondialisation.
Ainsi, le théâtre Navinoradech, l'une des plus célèbres scènes pragoises, qui est située sur la place de la Paix, qui est, il faut rappeler, le lieu privilégié des rassemblements et le point de départ mardi de la marche de protestataires, a fermé ses portes et annulé toutes ses représentations afin d'assurer la sécurité des visiteurs. Par ailleurs, il y a plusieurs autres galeries qui ont fermé leurs portes ou qui ont demandé
des mesures de sécurité
ou des protections policières renforcées.
Et ben voilà, on se retrouve tout de suite après un petit morceau. On va écouter Am Paranoia en la Noche.
Mira tú si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, por no tener no tengo ni casa ni trabajo. Mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy calle abajo, cantando
in the night, in the night, in the night.
Everybody take my way, I can never say forget. You don't love me every time you make me feel, you make me cry. Oh my darling, to my tears, oh my darling, set me free. You don't love me, I don't know, sweet darling.
In the night, 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 in the night
En paranoia, c'était En la noche. Et alors maintenant, on va passer au compte-rendu de la journée du 26 septembre, donc journée mondiale d'action, et la journée principale d'action, en tout cas à Prague, jusqu'à ce moment-ci.
Ouais.
Peut-être que demain, ça sera encore pire, mais je sais pas.
Compte-rendu.
Donc, oui, compte-rendu, même parfois plus. Donc on va commencer à 8h45 où les derniers manifestants étrangers sont encore arrivés. Donc 2000 personnes étaient attendues en train en provenance de la Grèce et un groupe d'anglais qui arrivait en avion. Entre-temps, les équipes de police anti-émeute, de véritables robocops, se préparent. De leur côté, des manifestants ont amené le célèbre Gomon, chambre à air reliée entre elles en guise de bouclier. D'ailleurs, c'est très intéressant d'aller voir les photos qu'il y a sur les différents sites d'Indymedia, et évidemment, bien sûr, le site de Prague. Donc c'est Praha, praha.indymedia.org, où il y a énormément de photos, même des reportages vidéo, et heure par heure, vous pouvez... enfin. Très 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 régulièrement, il y a des infos qui arrivent au fur et à mesure.
À 9h20, c'est le départ. Donc, d'après BP de Cristofori des jeunes communistes, le cortège était sur le point de partir du stade de Prague à 8h30. Le climat était tendu et la ville était totalement militarisée. La police occupait tous les points stratégiques. La seule action de protestation autorisée par les autorités tchèques était le rassemblement place Náměstí Míru. Après 13h, à l'heure où était prévue la conclusion. De l'Assemblée Générale du FMI, les forces de l'ordre donneraient peut-être l'autorisation de se déplacer en cortège dans les rues de la ville.
Alors à 9h38, la place était en train de se remplir, une incroyable ponctualité. Plusieurs cortèges sont en train d'arriver sur la place, aucun filtrage n'a été organisé par les forces de l'ordre. La présence policière sur la place elle-même est fort discrète, alors que le reste de la ville est en état de siège. Le cortège très bruyant des Tutte Bianchi, des centres sociaux italiens, avec une camionnette en tête, est composé de plus d'un millier de personnes. Les rues de Prague sont totalement désertes et même un Japonais s'est agrégé au cortège joyeux des centres sociaux pour pratiquer lui aussi la désobéissance civile revendiquée publiquement par nos amis italiens.
À 10h21, une petite visite au McDonald's par quelques Tutti Bianchi. Le cortège italien est passé devant un McDonald's et quelques Tutti Bianchi, protégés par les autres Tutti Bianchi avec les Gomoni, sont entrés. Les camarades sont entrés dans le symbole de la malbouffe, le reste du cortège criant des slogans de soutien à José Bové. Action très rapide, les policiers qui protégeaient l'établissement étaient peu nombreux et n'ont pas pu intervenir. Un peu de chahut à l'intérieur et deux vitrines ont volé en éclats. Les Tutti Bianchi étaient déjà dehors sous les applaudissements des manifestants du cortège italien et d'autres composés d'Allemands. Le cortège poursuivait son avancée vers la place.
À 11h, tous les cortèges sont rejoints sur la place. Donc le cortège des Tutti Bianchi est arrivé avec des banderoles et des slogans dans toutes les langues. Des journalistes en émoi face à cette palpitation de couleurs et de monde. Une conférence de presse mondiale était en cours pour expliquer l'action contre le McDonald's et annoncer des initiatives de désobéissance civile.
À 12h54, les Tutti Bianchi ouvraient le cortège qui se dirigeait vers le pont. Le cortège jaune qui quittait la place Náměstí Míru était ouvert par le groupe des Tutti Bianchi qui se distinguait par des actions de désobéissance civile. La manifestation était protégée en tête par les traditionnels militants en tenue blanche portant les gomoni et équipés de masques à gaz. Ils se dirigeaient maintenant vers le pont en direction du palais des congrès où se tenait la réunion du FMI. En tête, Luca du groupe 99 Posse, citant la culture populaire de sa ville d'origine, comme dans toute bonne comédie napolitaine, les justes ne peuvent que gagner, et comme nous sommes les justes, nous gagnerons.
L'ensemble des manifestants était environ 20 ou 25 000. Le cortège jaune qui a initié la marche de la désobéissance civile grossit à vue d'œil. Le pont est barré par des barrières et un cordon de policiers en tenue anti-émeute. Derrière eux, on peut aussi apercevoir des véhicules blindés. Une pancarte avertit que toute action non pacifique des manifestants entraînerait la dispersion du cortège. De nombreux parlementaires italiens, des Verts, des Rifondazione Comunista, se trouvent dans la tête du cortège avec les Tutti Bianchi qui avancent. On va écouter maintenant Muse avec, j'ai encore oublié le titre, c'est dramatique, la Tigresse, je sais pas qui.
I'm
l'instant, c'était Mouz avec Lily la tigresse.
À 13h10, le cortège avançait encore et toujours, face à face entre les policiers et les manifestants. Les Tutti Bianchi s'étaient avancés sur le pont, ils se trouvaient à environ 50 mètres de la police. Une délégation tenait une conférence de presse juste devant les forces de l'ordre. Luca Casarini commentait « La police nous empêche de manifester notre dissidence. Pour cette raison, nous commettrons des actes de désobéissance civile, comme en 68, ils opposent les chars à la démocratie. » Le cortège reprenait son avancée, de nombreux manifestants avaient les mains en l'air. Le cordon des Tutti Bianchi s'était positionné en U pour protéger aussi les flancs de la tête de la manif. Il n'y avait plus que quelques barrières entre les manifestants et la police.
À 13h40, les Tutti Bianchi, armés de ballons de couleur, avancent vers les chars et la police qui tente d'éloigner les manifestants à coups de jets de lacrymogènes tirés par des bombes à main.
À 16h09, c'est la désobéissance civile. Les affrontements avaient débuté aux environs de 13h. Après avoir été repoussés, les Tutti Bianchi avaient recommencé à exercer une pression sur la police pour tenter de passer. Un affrontement au corps à corps s'en était suivi.
Les forces de l'ordre ont chargé à plusieurs reprises, de nombreux objets volaient en riposte, quelques flics y laissent matraque ou bouclier. Vers 13h30, les policiers ont tenté une manœuvre de contournement du cortège et arrivent à l'autre bout de la place.
La police tchèque adoptait alors une tactique souple, bref charge, coup de matraque, quelques lacrymogènes.
La manifestation s'est transformée en un gigantesque sit-in, la zone de tension n'étant que vers le pont, où les Tutti Bianchi, mais aussi les syndicalistes turcs et d'autres manifestaient. Dans la rue qui mène au pont, où il y a même une ambiance festive avec une incroyable variété de slogans, de banderoles, de pancartes, de chants et de langues parlées. Il y a même les indigènes Mapuche du Chili qui se sont assis par terre. Il y avait aussi les anarchistes polonais, des militants biélorusses, etc.
Et les Pragois, c'est la seconde manifestation à laquelle je participe dans ma vie, disait un étudiant tchèque. Je suis pour la réforme de la Banque mondiale, mais ici, je me sens à mon aise.
Avec régularité, la sono de la police intime l'ordre de dispersion, mais personne n'en a cure.
Il est 14h, le cortège bleu, composé pour l'essentiel d'activistes tchèques, rejoint la tête du cortège pour faire face à la police. Pour les manifestants, l'objectif prioritaire restait d'approcher le palais des congrès.
Les affrontements reprennent une demi-heure plus tard, les Tutti Bianchi ont étendu les gommeries entre eux et la police. Un autre groupe de manifestants s'est avancé sur un autre pont, il y a désormais deux lignes de front.
Nouvelle charge, des renforts de police arrivaient aussi. Les manifestants avançaient conjointement sur les deux ponts et les forces de l'ordre répondaient par des tirs de grenades lacrymogènes.
Un peu avant 15h, on apprend que le cortège rose, composé d'antifascistes allemands, espagnols, de français et d'américains, a réussi à contourner le blocus policier et est arrivé près du palais de congrès. Les congressistes du FMI seraient pratiquement encerclés.
Entre-temps, aux militants turcs qui tenaient une partie d'un des ponts s'étaient joints des centaines de Grecs. Un miracle à Prague, Grecs et Turcs solidaires.
À 16h38, affrontements et barricades jusqu'au pied du palais des congrès, 1, 2, 3, on y va contre la police. Les échauffourées se poursuivent un certain temps sur les deux ponts.
Les manifestants du cortège bleu sont arrivés près du palais des congrès en passant par la rue qui passe sous le pont, où il y a de nombreuses habitations. Ils sont arrivés très près du bâtiment, où ils ont été chargés avec des lacrymogènes et canons à eau. Les manifestants ont dressé des barricades avec tout ce qu'ils pouvaient trouver. Les charges de police sont très violentes. Le cortège sera bientôt obligé de se replier dans un parc tout proche.
Il était un peu plus de 15h quand les Italiens de Tutti Bianchi tiennent une assemblée sur le pont qu'ils occupent depuis la fin de matinée pour discuter de la stratégie à adopter. Un groupe de militants britanniques vient aussi d'arriver en renfort.
L'assemblée générale discute de la nécessité de trouver de nouvelles stratégies d'action. Tout le monde est fatigué par plusieurs heures d'affrontement. Les Tutti Bianchi décident de mettre un terme à l'occupation du pont. Le cortège des centres sociaux retourne vers la place sous les applaudissements.
Pendant ce temps-là, il était près de 16h, le cortège bleu tente de nouveau de s'approcher du lieu de la réunion du FMI pour tenter d'empêcher les congressistes de sortir. La réunion est officiellement close depuis 13h.
Et avant de rejoindre le siège du palais des congrès, une petite pause musicale avec...
Lego, when I'm with you, dans le trompette mix. Thank you. Lego, c'était When I'm With You dans le trompette mix. Alors, à 16h49, le cortège bleu est pratiquement arrivé devant le palais des congrès, d'où les manifestants peuvent entrevoir les délégués du FMI qui n'osent pas sortir et rejoindre les voitures qui les attendent. De nouveaux véhicules équipés de canons à eau viennent d'arriver pour protéger les puissants de ce monde, ce qui pour l'instant ne réduit en rien la détermination des manifestants.
À 17h45, le cortège bleu voit ses rangs grossir. Il y a un peu avant 17h, une tentative pour bloquer les voies de métro, moyen utilisé par les délégués pour quitter leur citadelle assiégée. Mais les forces de l'ordre ont réussi à en empêcher les manifestants.
Alors, à 17h45, des charges violentes contre les manifestants à proximité du palais des congrès. Plusieurs groupes avaient réussi à entrer pratiquement en contact avec les délégués du FMI, qui étaient sur une terrasse en hauteur. La police anti-émeute est intervenue, nous ne savons pas s'il y a des blessés, mais plusieurs personnes ont été durement frappées. Notre correspondant a dû interrompre la communication parce que poursuivi par des policiers.
À 18h32, malgré la fatigue, les manifestants du cortège jaune qui étaient retournés sur la place après plusieurs heures d'affrontement sur le pont ont décidé d'aller rejoindre le palais des congrès. Congrès et de converger avec le cortège bleu qui arrivait à proximité du lieu de la réunion. Il faudra un peu de temps compte tenu de la distance et de la nécessité d'éviter le fameux pont. Des manifestants avaient réussi avec un barrage routier à empêcher un convoi de police de rallier le palais des congrès où il avait renforcé l'imposant dispositif de sécurité qui s'y trouvait déjà.
19h16 d'après-midi média Prague, une trentaine d'arrestations ont eu lieu rue Kvetna. Vers 18h30, les interpellations se sont opérées alors que des centaines de manifestants bloquaient la rue. Le prochain rendez-vous du mouvement est l'Opéra d'État où sont dirigés les délégués du FMI pour passer la soirée. Mais le spectacle pourrait bien ne pas être celui qu'ils attendent. D'ailleurs, l'Opéra de Prague a été fermé pour circonstances imprévues. Voilà, on va écouter Dogfaced Herman avec une reprise de Obella Ciao, la chanson des partisans italiens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, à l'instant, c'était Dogfaced Herman avec une reprise de Bella Ciao. On va écouter maintenant une interview d'une correspondante qui était à Prague pendant les événements qu'on vient d'expliquer, réalisé par Radio Zinzine. Merci beaucoup à Radio Zinzine d'avoir fait ce truc qu'on a récupéré. Voilà, c'est parti.
Les activistes se sont divisés en petits groupes et ont réussi à s'approcher davantage du centre des congrès. Et d'après ce que j'ai pu voir, moi, a bloqué à peu près tous les accès. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté des forces de police et de l'autre côté des activistes. Et je pense qu'il y a quand même une partie du plan blocage qui a été réussi. Mais ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui se sont fait encercler, en majorité des Italiens, là, sur les derniers temps du blocage, alors que la consigne semblait être de lever les blocages et de tous se rendre à l'opéra où va avoir lieu ce soir un grand concert pour l'élite. Et donc, il y a au moins 17 personnes qui se sont fait choper, dont deux de nos amis de la caravane, à savoir Jean-Philippe Joseph et Xavier Nouliane.
Aïe.
Donc, on sait que là, ils sont dans un commissariat. L'INPEG a quand même assez bien organisé les choses et on a pu prévenir un service juridique qui essaie de localiser l'endroit où ils sont détenus.
Oui.
Et on attend aussi leur consigne pour savoir s'il est bon d'aller devant le commissariat en question et d'organiser une résistance par rapport à ces arrestations-là.
D'accord.
L'autre chose que je sais, c'est que il y a des activistes, mais je ne sais pas lesquels, qui ont pu rentrer dans le centre des congrès et qui sont toujours à l'intérieur. Et éventuellement, ce que je peux vous recommander, c'est d'appeler des gens qui ont un portable à l'intérieur et qui pourraient vous décrire un petit peu mieux la situation.
D'accord.
Il semble quand même que le programme du sommet a été pas mal
perturbé,
pas mal bouleversé, d'autant que les gens ce matin n'ont pas pu se rendre à l'heure au début des conférences, puisque les hôtels ont été visités par les activistes et les gens ont été retenus en musique un certain temps.
D'accord.
Mapucheak erran zun. duelazko garelago erantzun. Duelazko garelago erantzun. Iparra egoa, ekia iberria, lehortea gaua, aizeak izarrak egiatua. Uoldetik salbatzeko balio izan zuna, aritzuria, gezurra egian, dezeko mendil errotik beste aldera, egia gezurra, talisman urtina, nahuel urtinako esan zuen. Kondore horrek, premia handiz, premia behar dugu iztegia, maputxe euskara, maputa lurra, jendea datxe, lurraren jendea dugu maputxe, maputa lurra. Luraren jendea dugu mapotxe, maputa lurra, jendea datxe. Luraren jendea dugu mapotxe, maputa lurra, jendea datxe. Luraren jendea dugu mapotxe. Buru jabe, mapotxe. Buru jabe, mapotxe. Buru jabe,
à l'instant, c'était un extrait de l'album de Fermín Muguruza en compagnie de Manu Chao. Pour ce morceau-ci, c'était Mapuche. Notons que Fermín Muguruza devrait normalement très bientôt, c'est-à-dire début octobre, sortir un nouvel album, donc toujours sur Ezan Ozenki, le label basque. Cet album s'appellera 99.00 FM.
Le 26 septembre encore, les délégués à l'assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale que les manifestants anti-mondialisation souhaitaient bloquer dans le centre des congrès de Prague ont été évacués par métro spécial au nez à la barbe de leurs opposants.
Le directeur général du FMI, Horst Köhler, ne s'attendait certainement pas à quitter le centre des congrès de cette manière, a-t-il dit, visiblement contrarié. Mais je pense que ceci est très bien organisé par les autorités tchèques, a-t-il indiqué avant de prendre son métro.
Les opposants à la mondialisation avaient affiché leur intention de confiner toute la nuit s'il le fallait les quelques 13 000 délégués dans la grande bâtisse moderne de béton crème où ils étaient réunis.
Mais bien moins nombreux que prévu, ils avaient dû renoncer, à l'exception de quelques centaines d'irréductibles, dès la fin de l'après-midi.
Le centre des congrès de Prague est desservi par la station de métro Vizerat, si j'arrive à prononcer. Depuis le début de la matinée, la station avait été fermée au public. Les rames la traversant sont s'y arrêter par crainte d'accident.
Le gouverneur de la Bundesbank, Ernst Welteke, et le président de la Banque mondiale, James Wolfelson, faisaient partie des premiers passagers de la rame numéro 1. Je pense que les autorités tchèques gèrent bien la situation. Nous savions que certains délégués devaient quitter le centre des congrès par train, et j'ai décidé de me joindre à eux.
Les délégués étaient tellement pressés de quitter les lieux qu'ils empêchaient de sortir les forces de police qui arrivaient sur place, également en métro.
Les trains spéciaux vont directement jusqu'au terminus de la ligne, sans s'arrêter en chemin, selon un responsable de l'organisation. De là, des navettes acheminent les délégués vers leur hôtel ou vers la réception offerte par le Premier ministre tchèque au Palais de l'Industrie.
Dans les navettes, l'ambiance est bon enfant, les délégués ayant l'impression d'avoir joué un bon tour à leurs opposants. « On s'amuse, n'est-ce pas ?» s'est exclamée une déléguée. Certains, cependant, s'énervaient à la vue d'un journaliste qui tentait de les photographier.
À proximité immédiate du centre des congrès, la situation s'est rapidement détendue une fois connu le départ des délégués. La journée a cependant été marquée par de violents affrontements qui ont fait une centaine de blessés, dont une cinquantaine de policiers, selon l'agence CTK. Les journalistes présents estimaient pour leur part que les victimes des heurts pourraient être plus nombreuses. Alors notons aussi que beaucoup de manifestants risquent d'être expulsés dans les prochaines heures. Donc beaucoup de personnes qui ont été arrêtées ce matin, donc c'est plus ou moins 500 arrestations, un grand nombre vont être expulsés vers l'Allemagne. Certains manifestants arrêtés n'ont pas eu droit à un avocat, alors que la loi tchèque l'exige. Deux reporters immédiats risquent aussi d'être envoyés. On reporte beaucoup de manifestants avec des membres cassés et des contusions. On va écouter Power Stepper avec A Taste of Bass. Thank you.
suis avec Eric Toussaint, qui est le président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Il vient à Prague dans une optique d'abolition pure et simple du FMI et de la Banque mondiale. Il va expliquer ses positions en commençant par le commencement. Pourquoi annuler la dette ?
Permettez-moi de mettre tout de suite les pieds dans le plat. Quand on a des dettes, on les paye, non ?
Ça me paraît tellement banal comme réponse. Les pays du tiers-monde la payent. Et comme les gens surendettés en Belgique ou dans les pays du Nord, ils payent des quantités absolument considérables parce qu'ils ont des usuriers sur le dos qui leur font des prêts de manière à ce qu'ils puissent tenir leur engagement antérieur pour ne pas que le huissier fasse vider la baraque. Et donc ils remboursent des sommes absolument considérables. Le tiers-monde a remboursé 6 fois le montant de ce qu'il devait en 82, il a remboursé 6 fois ça entre 82 et aujourd'hui. Et il est 4 fois plus endetté qu'en 82. C'est-à-dire que pour pouvoir effectuer les remboursements, il contracte de nouveaux emprunts, mais avec des primes de risque qui font que les taux d'intérêt sont de l'ordre de 9 à 15%, ça dépend des pays, alors qu'un pays comme la Belgique ou la France, quand il émet des titres de sa dette publique, il paye ses titres, il rémunère ses titres à du 5-6%. Et donc, moi je suis pour effectivement l'annulation de la dette. Le tiers-monde a remboursé déjà plusieurs fois. C'est assez. Il faudrait que l'argent qui est remboursé puisse être utilisé par les pays du tiers-monde pour satisfaire les besoins humains fondamentaux en matière de santé, d'éducation, d'investissement pour créer de l'emploi, etc. Alors vous me direz, oui, mais enfin, on ne va pas faire des cadeaux aux dictateurs, c'est pas ça que vous allez me dire, peut-être. Eh bien, nous sommes de manière complémentaire pour l'expropriation des avoirs détenus dans les pays du Nord par les régimes dictatoriaux ou les riches du Sud qui ont mis en sécurité dans les pays du Nord l'argent qu'ils ont volé sur le dos des populations locales ou l'argent qu'ils ont détourné et qui provenait des prêts des pays du Nord. Il y a énormément d'argent qui a été planqué par Mobutu, par Suharto, par Marcos dans les pays du Nord. Les banques et les institutions financières du Nord sont parfaitement complices. Et donc nous sommes pour qu'il y ait des enquêtes menées jusqu'au bout, pour faire la clarté sur ces complicités. Au bout d'une enquête menée en bonne et due forme, nous sommes pour l'expropriation de ces avoirs s'ils ont été acquis de manière illicite et leur rétrocession aux pays du Sud, pour que ça entre dans des fonds nationaux de développement contrôlés par les mouvements sociaux du Sud. Évidemment pas simplement à l'usage discrétionnaire des régimes du Sud.
Apparemment, les institutions internationales sont quand même vaguement sensibles, ou en tout cas font semblant de l'être à vos arguments, puisqu'on parle de plus en plus quand même de propositions qui vont plus ou moins loin de réduction de la dette. Quelles sont ces propositions et pourquoi est-ce qu'elles ne vous satisfont pas ?
Les propositions consistent à, en échange de réduction tout à fait marginale, de l'ordre de 10 à 20% de réduction. En échange de ça, les institutions comme la Banque mondiale, le FMI et le G7 exigent des pays du Sud ou des pays de l'Est qu'ils continuent la politique de privatisation, qu'ils continuent les réductions de dépenses de santé et d'éducation, qu'ils ouvrent encore plus leur économie pour que les entreprises multinationales des pays les plus industrialisés puissent conquérir les marchés ici. Ils exigent des changements de législation en matière d'agriculture, d'abandon de subsides aux agriculteurs des pays concernés. Ils exigent la suppression de subventions aux produits et aux services de première nécessité, ce qu'on appelle en bref l'ajustement structurel et qui a des effets désastreux. Alors c'est un marché de dupes pour les populations, parce que ça veut dire plus d'austérité en échange d'un tout petit peu moins de dettes. Or, il faut tourner le dos complètement à ce genre de politique. Il faut refuser la continuation de l'ajustement structurel, la renommée cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. On a fait un changement de terminologie sans rien changer au fond des politiques que je viens de décrire. Et il faut utiliser les sommes qui étaient destinées au remboursement de la dette à satisfaire les besoins humains fondamentaux. Voilà ce que nous proposons. Alors pourquoi la Banque mondiale et le FMI font ça? Parce que elles n'ont jamais été dans une crise de légitimité comme aujourd'hui. La crédibilité de la Banque mondiale et du FMI est au plus bas depuis leur création. Et donc il faut bien qu'ils fassent quelques concessions à l'opinion publique, sans aucune concession sur le fond.
Donc oui, on voit que les points de vue sont quand même vachement éloignés.
On peut le dire.
Seulement, bon, voilà, vous êtes là pour le contre-sommet de Prague. La réponse, c'est mobilisation massive de policiers, c'est un peu semer la panique partout. Ça n'indique pas vraiment une disposition de la part de l'autre côté à un peu s'ouvrir. Est-ce que vous pensez que l'élan grandissant du mouvement mondial suffira à changer cet état de fait, ou bien on se dirige, d'après vous, plutôt vers une confrontation grandissante et plutôt stérile?
Je pense que les institutions comme la Banque mondiale et le FMI et ceux qui les dirigent, essentiellement les États-Unis et derrière, je dirais presque loin derrière, l'Allemagne, le Japon, la France, la Grande-Bretagne, ces institutions et ceux qui les dirigent sont absolument pas prêts à changer. Ils sont pas prêts à un véritable dialogue. Quand ils ont l'air de se prêter à un dialogue, c'est parce que vraiment leur légitimité est clairement au plus bas. Deuxièmement, et ce qu'il y a d'interpellant dans ce qui se passe ici à Prague, c'est que dans ce lieu symbolique de saloppression, où on a un président de la République qui a fait systématiquement de la désobéissance civile au nom de la démocratie, et il a eu raison de le faire. Mais dans ce lieu hautement symbolique, on veut interdire aux gens de faire de la désobéissance civile, puisque ce dont il est question ces jours-ci, c'est la volonté de la part de jeunes tchèques, surtout des jeunes, d'empêcher soit le démarrage, soit la conclusion normale du sommet. C'est de la désobéissance civile par des moyens pacifiques, bloquer les voies de communication. Il n'y a rien de violent dans ça, c'est l'exercice normal de la démocratie. Et ce qui était considéré comme héroïque par les puissances occidentales et par les médias occidentaux il y a un peu plus de 10 ans est considéré maintenant comme du terrorisme, de l'expression de gens qui veulent empêcher le fonctionnement normal d'institutions. Vaclav Havel voulait empêcher le fonctionnement normal des institutions tchèques et menait des actions qui allaient à l'encontre de la loi tchèque, parce qu'il y avait une constitution socialiste bureaucratique tchèque à laquelle il s'opposait. C'est ce que veulent faire des jeunes aujourd'hui qui en ont marre de l'oppression de la loi du marché capitaliste et qui ne veulent pas pour autant retourner au système socialiste bureaucratique antérieur. Et ils veulent pouvoir s'exprimer et doivent pouvoir le faire. Alors, s'il faut aller à la confrontation, on ira. Le moment décisif, ce n'est pas ici à Prague. Ça demande un rapport de force à construire par différents moments, différentes étapes. Et on est, je dirais, toujours dans les premières étapes.
Voilà, donc c'était l'interview du président du comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde. Maintenant, on va écouter un peu de musique avec Bidet ou Boubès. On va écouter Neketeyo, quelque chose comme ça. Ça va arriver, hein, ça arrive.
Yo, what's up? This Wyclef from the Fugees. Yo, yo, what's up to all the hip-hop community in Senegal? It's Wyclef from the Fugees, Proswell in the back talking, you know what I mean? Chilling with BDL Boobest, you know the flavor, and you know how we go, we chilling in Senegal. Nicky-tay-yo, you know what I mean, the mic pro.
Man, man, you want to feel it? Chili, Leafy, Mariki, the walk-up, nyup, Mikaufi, Balol, Master B, now fi, the say, the liko, what the liko, darde, Mabuku, fi, tang, the jerk, got the door, in the Maintenant, il est là, peinard avec beaucoup de dollars.
Voilà, c'était un truc imprononçable, bidet ou boubès avec Ndeketeyo. Voilà, c'était ça. Extrait de la compilation, évidemment, qui s'appelle Da Hop, une compilation de rap sénégalais. Vraiment très très bien. Enfin, je trouve. Et maintenant, on va parler de notre cher ministre des Finances, Didier Reynders, ministre des Finances belge, puisque au cas où vous ne le sauriez pas, Protesta est quand même, enfin, l'émission est quand même plutôt belge. Plutôt, le dire, on aime oui. Les frites, la bière, donc on est belge. Et Frédéric Ries aussi.
Frédéric Ries, ok. Je t'en prie. Le FMI et la Banque mondiale doivent rester au centre du système financier international. Ils forment, via leur caractère multilatéral, l'enceinte la plus appropriée pour mener à bien la coopération internationale, a annoncé mardi le ministre des Finances, Didier Reynders, donc, lors de sa déclaration en séance plénière des deux institutions.
Après avoir salué les sacrifices que les pays en transition économique ont dû consentir, Didier Reynders a fortement insisté sur la nécessité pour ces pays, et plus particulièrement pour ceux qui sont candidats à l'Union européenne, de renforcer les réformes structurelles et institutionnelles en cours.
La Belgique prendra toutes ses responsabilités pour les aider dans ce processus, a-t-il affirmé.
Le ministre a également abordé la croissance économique de la zone euro, 3,5%. Cette croissance reflète les potentialités de la zone euro dont les fondamentaux économiques sont excellents. Toutefois, une telle croissance stable et soutenue à long terme se maintiendra plus facilement si les cours de change entre les grandes zones sont proches de leur niveau d'équilibre.
Concernant la hausse des prix pétroliers, Didier Reynders a demandé, dans l'intérêt collectif, d'éviter une chute drastique de la croissance mondiale. Il est donc impératif d'assurer un approvisionnement du marché mieux adapté à la conjoncture économique, a-t-il ajouté.
De plus, il importe, selon Didier Reynders, que le FMI identifie rapidement les pays qui sont confrontés à une forte détérioration de leur balance de paiement liée aux problèmes énergétiques.
Le rôle du secteur privé dans la résolution des crises financières n'est pas oublié par le ministre des Finances. L'implication du secteur dans le financement des programmes du fonds, doit rester un élément majeur des efforts de renforcement de l'architecture financière internationale.
Enfin, Didier Reynders appelle que le FMI et la Banque mondiale doivent veiller à ce que les plans de réduction de la pauvreté élaborés par les pays fassent l'objet du consensus le plus large possible. Je fais donc appel aux pays contributeurs pour qu'ils remplissent rapidement les engagements qu'ils ont souscrits et que le financement du programme ne soit pas mis en péril, a-t-il conclu. Et nous, on va conclure avec Noir Désir et Holy Economic War, enregistré au festival Paléo de Nyon en l'an 2000. C'est donc un inédit, deuxième inédit pour aujourd'hui. Alors, il y a malheureusement des commentaires d'autres journalistes, mais bon, c'est que au début, à la fin. Donc voilà, Noir Désir, Holy Economic War.
I walk up on the ground, the earth is round. So what about this new day?
Un petit côté folky quand même.
Is there anything new? What are we gonna do? Walk up in the silence, still not heard that song. And a voice in my bedroom. Let me set down for you. You gotta work hard more and more. Try the highly economic war. But it couldn't be no hallucinations. Then I've read the story of the new nations. It's just as you please, and I'll just get down on my knees. God, it's wonderful to find the meaning of life. And I'm right there, I'll let another bitch go. The message is gone for you. You gotta hear that the whole world. Don't forget that you fast forward and write the things you have no choice in a matter. I think I'm your blessed manager. You gotta spread just more and more. For the highly economic world.
Yeah.
Désir au Paléo Festival de Lyon en 2000. C'était Holly Economic War.
War. C'est bien.
Et ben c'est fini. Alors il faut quand même signaler que vous pourrez retrouver plein d'informations sur tout ce qui se passe à Prague sur le site Indie Media de Prague. Alors l'adresse c'est Praha. praha.indymedia, donc indymedia sans accent .org. Sinon il y a aussi des infos sur le site d'Indymedia Belgique, belgium.indymedia.org, des infos sur Prague mais aussi sur tout ce qui se passe en Belgique. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les émissions, enfin pas toutes mais une partie des émissions de Protesta sur le site d'Indymedia, donc l'émission Protesta mais aussi l'émission Escale. Je rappelle aussi les informations, vous pouvez le trouver sur Indymedia France, donc france.indymedia.org. Je rappelle le site de Protesta, www.multimania.com/protesta. Pour le moment, il y a 4 émissions. Escale, donc mélange musique du monde et électronique, on va dire, en gros. Plus reggae latino. Zatas, qui est une émission sur tout ce qui est sécurité informatique, hacker, etc. Ça faut le dire, qui j'espère devrait arriver un jour sur le site, mais ça viendra. Une émission féministe lesbienne et Protesta, donc
nous.
Info alternative et musique militante et inversement. Bien sûr. Et ben c'est tout ce qu'on a à dire. Ah non, si vous voulez écouter, nous envoyer un email protesta@wall.be pour toute l'équipe pour proposer vos émissions, puisqu'on attend. Un maximum d'émissions, tous les projets sont acceptables, il faut voir. Tout peut être intéressant, donc vous pouvez proposer vos projets protesta@wall.be ou aller sur le site www.multimania.com. Eh bien, à la semaine prochaine, on espère, non?
Normalement oui, peut-être même sur la radio.
Peut-être. Ciao.